Bonjour, bienvenue sur FPP 106.3 FM dans l'émission Histoire 2. Dans Histoire 2, nous faisons également notre rentrée littéraire, car nous allons faire aujourd'hui une lecture à deux voix pour vous parler d'un tout premier roman. C'est une lecture à deux voix que je suis très heureuse de faire avec mon amie Gaëlle Octavia. Bonjour Gaëlle.
Bonjour.
Je connais Gaëlle depuis très longtemps et je suis très heureuse de la compter parmi mes très grandes amies. Et Gaëlle est auteure de théâtre, de poésie, de romans, en plus de ses réalisations de films et de ses peintures. Et elle sort son tout premier roman chez Gallimard qui s'intitule « La fin de Mambabi » et qui est sorti dernièrement ce 31 août dernier. Et nous allons vous donner à entendre quelques extraits de ce roman. Alors, La fin de Mambabi retrace les destins croisés de quatre femmes au sein d'une petite ville de banlieue que l'on appelle le quartier. Nous finirons l'émission également avec quelques poésies de Gaëlle. N'hésitez pas à aller très vite vous procurer La fin de Mambabi pour connaître toute l'histoire, édité donc chez Gallimard. Nous allons commencer cette lecture par le chapitre 2 du roman, en tout cas quelques passages de ce chapitre qui dépeint ces personnages que l'on commence à découvrir. C'est la première chose que dira Mariette. Ça a sonné. Vous ferez votre entrée, accrocherez votre manteau à la porte et l'entendrez répéter depuis le salon. On a sonné aujourd'hui. Et hier aussi, on a sonné. Ça sonne tous les jours, même s'il ne se passe rien ensuite, qu'elle n'entend plus aucun bruit en provenance du palier. Quand ça sonne, elle ne fait rien. Elle ne bouge pas du rocking chair. Elle ne va pas se lever s'il n'y a personne. Elle n'est pas très rassurée, je ne le serai pas non plus à sa place. Après tout, elle est seule, une femme seule dans le quartier. Elle se dit, surtout, rester assise. Se balancer dans le fauteuil, attendre que ça ressonne, voir. Elle se demande ce que fabrique Aline et qui va faire à manger. Parce qu'il faut bien manger quand même. Et qu'Aline n'a pas pu oublier ça. Mariette regardera son poignet où il n'y a pas de montre, puis le mur où il n'y a aucune horloge. Elle vous demandera l'heure. Quand elle est seule, elle ne sait jamais quelle heure il est. Aucun objet pourvu d'un balancier ne vient faire concurrence à son fauteuil. Elle pourrait se contenter de compter le temps en restant assise dans son rocking chair. Ce serait son temps approximatif de femme assise, son temps de femme seule. Oh, ça ne l'ennuie pas d'être seule. Elle vous le dira souvent. La solitude, c'est très doux, très calme. Mais elle sait ce que la solitude fait au temps. Tout est déréglé. Les heures deviennent complètement instables. Elle calcule. Si j'attends Aline, elle n'arrivera jamais. Mais si je commence à faire mes petites affaires, le temps va raccourcir et Aline va m'interrompre. Alors elle se balance en se répétant que ce problème de temps mis à part, la solitude, ce n'est pas dur du tout. Et qu'en plus, il y a cette fille qui vient l'aider, cette Aline, qui passe le midi et le soir, qui pourrait rester toute la journée si elle le lui demandait, et même la nuit si nécessaire. Aline, c'est moi, l'infirmière libérale. Aline en blouse blanche. Parfois, Mariette m'appelle par mon prénom. Parfois, non. La première fois qu'elle m'a vue, elle s'est écriée « Une fille noire ! Une fille noire comme hier soir !» Comme si c'était la seule remarque pertinente à faire. Pourtant, en regardant attentivement, il y aurait eu bien d'autres choses à dire sur moi. Elle a ensuite éclaté de rire. Un rire de gamine. Le rire de Mariette ne vieillit pas. Peut-être parce qu'elle le ménage, qu'elle ne le fait jaillir qu'en de rares occasions. Ça y est, j'ai dit une bêtise. Elle ne le regrettait pas vraiment. La politesse n'admet pas que l'on dise « noir comme hier soir » à propos d'une personne. Elle le sait parfaitement. Elle s'est autorisée à le dire parce qu'elle est noire elle-même, ou l'a été, car aujourd'hui, elle oublie ce que cela signifie exactement. On s'occupe tellement d'elle maintenant. Les gens ne s'imaginent pas que les femmes noires aussi aiment être servies. Je n'ai pas souri sur le moment. Je trouvais ça décidément réducteur, la fille noire, ne sachant comment réparer sa bêtise. Mariette m'a tendu la main, je l'ai serrée mollement. « Allez, la fille noire !» Elle avait l'air inquiète soudain. J'en ai déduit que je lui plaisais. Plus tard, elle a précisé « un noir comme Mbabi ». C'est ça que je voulais dire. J'ai sursauté en l'entendant évoquer Mbabi. C'était une incroyable coïncidence que Mariette parle d'elle spontanément. Mbabi, la perle du quartier, celle qui guide ma vie encore aujourd'hui. À sa manière de prononcer son nom, j'ai deviné qu'elle l'avait connue intimement. Cette découverte m'a beaucoup déconcertée. Mariette me parlerait plus longuement de Mam quelques semaines après et j'apprendrai peu à peu à me faire à cette idée. Mariette et Mam, amies. Je devrais aussi m'habituer à ce qu'elle nous compare toutes les deux. Elle le fait très souvent. Vous me faites vraiment penser à Mbabi, Aline. Aussi noire, aussi maigre, sérieuse comme une tête de pain rassis. Mais grande, ça oui, vous êtes grande. Et beaucoup plus jolie. La fille noire, c'est aussi par opposition à la fille blanche. Car avant la noire, il y avait la blanche. Mais elle ne vient plus. On n'a pas prévenu Mariette. La blanche a simplement disparu. La noire, c'est-à-dire moi, a pris sa place. Échangé, comme par magie. Mariette n'a pas eu l'air d'en être chagrinée. C'est ce qui est bien avec l'administration. Comme par magie. On ne comprend rien, mais on est servi. Je me demande si elle s'en fiche vraiment, moi ou l'autre. Ce n'est pas pareil, la grande noire et la petite blanche, dit Mariette sans que je saisisse pour autant si elle conçoit une préférence pour l'une de nous. Pareil ou pas, les deux font ce qu'il y a à faire. Les soins, les médicaments, même le ménage. Surtout le ménage. Mariette dérange, la fille range, quelle qu'elle soit. Mariette se balance dans le rocking chair et la fille s'occupe des papiers. Course. Ce n'est pas pareil, assure-t-elle pourtant. Et pour que je comprenne qu'il n'y a pas que la question de la couleur, elle précise. La blanche était plus gentille, la noire est plus professionnelle.
Mariette n'est pas vieille. Sa vie est régie par l'administration, par les rhumatismes, mais elle n'est pas vieille. Combien est-ce que vous me donnez, Aline ? 50, 60 ans, fais-je pour la taquiner. Elle proteste à grands cris. J'ai pas 60 ans, ça c'est sûr. Elle a le visage lisse. Il faudrait pouvoir le toucher. Je ne suis pas vieille, mais je suis fatiguée. Elle a mal partout, des courbatures dans les avant-bras, dans les cuisses, dans le cou. On me donnerait 60 ans tellement j'ai mal. C'est tellement fatigant de porter un cadavre. Mariette a bel et bien porté un cadavre il y a 7 ans. Sur 100 mètres. J'ai porté mon amour sur 100 mètres, mon amour tout raide mort. Pierre, son fils, qui s'était vidé de son sang après avoir été passé à tabac. Il avait à peine 21 ans. 100 mètres, répétera souvent Mariette, c'est la distance sur laquelle elle a traîné le corps. Elle insiste toujours sur ce détail, le cadavre porté sur 100 mètres. Sans doute parce que c'est la seule chose précise et fiable qu'elle puisse dire. Le meurtre de Pierre n'a jamais été élucidé. Mariette en parle de manière presque détachée maintenant. Mais ensuite, bien sûr, elle a envie d'une cigarette. La blanche aussi avait ses humeurs, ses larmes, ses crises de nerfs. Elle pleurait en serrant Mariette dans ses bras. Mais la plupart du temps, c'était une gentille fille que Mariette laissait se balancer un peu dans son fauteuil, privilège auquel je n'ai jamais goûté. Gentille, vraiment, surtout au sujet du vin, vous rappellera Mariette pour que vous la resserviez. Elles ont tellement bu ensemble. Maintenant, quand elle y pense, Mariette est certaine qu'elle l'aimait beaucoup, malgré le fait qu'elle était blanche. Suzanne, elle s'appelait. Suzanne, comme ma mère, précise-t-elle. Drôle de coïncidence. Elle se demande si l'administration n'est pas derrière tout ça. Elle était spéciale, la petite blanche. Elle aimait beaucoup les noirs, m'a expliqué Mariette en admettant que, peut-être, ça ne voulait rien dire. Elle-même, en tout cas, avait commencé par trouver que ça ne voulait rien dire, aimer les noirs, de toutes les sortes, de tous les pays où l'on arrive à en trouver. Mais le fait est que Suzanne les aimait et n'aimait qu'eux. Elle l'avait dit à Mariette avant de lui faire le récit de sa vie, en empruntant des inflexions de vieille femme. À 25 ans, Suzanne parlait de sa jeunesse comme d'un passé lointain. Elle évoquait surtout un garçon qu'elle avait follement aimé et qui lui avait laissé une marque au couteau sur le cou. Elle pleurait encore à cause de cette histoire, pas pour le couteau, pour la mort du garçon. Elle implorait « Pleure avec moi, Mariette. Serre-moi et pleure avec moi. » Mariette la serrait dans ses bras parce qu'elle la trouvait mignonne, mais refusait de s'apitoyer sur le sort de ce voyou qui avait fini par mourir dans une bagarre. Suzanne insistait pour qu'elle pleure à l'unisson, comme si, les pleurs s'additionnant, on augmentait les chances du garçon d'aller au paradis. Mariette était très contente que Suzanne soit débarrassée d'un horrible type comme ça, et espérait qu'il soit mis pour l'éternité hors d'état de nuire. L'horrible type, la grande passion de la petite blanche, n'était autre que Pierre, le fils, l'amour tout raide mort de Mariette. Je me suis toujours demandé si, au fond, Mariette le savait. Que sa mémoire ait effacé le visage de Suzanne, le choc de la mort de Pierre et l'alcool aidant, cela restait plausible. Mais n'aurait-elle pu reconnaître son fils? N'aurait-elle pu être frappée par toutes les coïncidences en entendant la petite blanche dérouler le fil de son récit? Ni l'une ni l'autre ne désignait Pierre par son nom. Suzanne disait « mon homme », Mariette, fidèle à ses périphrases, « le garçon au couteau ». « Qu'il grille en enfer !» préconisait-elle tranquillement, ce qui redoublait les pleurs de la petite blanche. Pour la calmer, Mariette admettait que l'enfer n'existait pas et la laissait se balancer dans le rocking chair. Suzanne ne lâchait pas le morceau pour autant. « Mon homme, il m'aimait, c'était un hypersensible, un garçon un peu torturé. »« Un peu torturé ? C'est plutôt les autres qu'il avait tendance à torturer, oui. » « Laisse-moi te dire quelque chose, ma petite. » Et c'est comme ça que Mariette en est venue à parler à son tour de son premier mari, celui qui lui avait laissé le zippo, pour que Suzanne puisse comparer et voir comment ça pouvait être une histoire d'amour. Une histoire d'amant désuni par le destin. Une histoire triste, à boire avec du vin.
En bas caresse à droite en bas. Van haver, wob a fle, vin fe un tiba, se ve moi. Gant fe fond me die, sve nom, el a yo fin bale, moyen senti moi. Jouez, jouez pour moi, continuez. Des cordes en cordes passées. Pour moi, voyagez, yeah. Venez, jouez, jouez pour moi, jouez encore. Restant que suivre sans force, pas ni à rien à comprendre. À qui ressentir, pas sa musique ni à dire, c'est toi même qui oiseaux chantent. jouez pour moi, continuez. Des codes en code passé, pour moi voyagez, yeah. Venez, jouez pour moi, jouez encore. Et si qu'est en moi, je d'accord, restant que suivre. Joie pour moi, joie.
Vous êtes toujours sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM dans l'émission Histoire 2. Nous poursuivons la lecture des extraits de La fin de Mambabi qui vient de sortir aux éditions Gallimard en compagnie de son auteur, Gaël Octavia. Et nous poursuivons notre lecture par le chapitre 14, où il est question du second mari de Mariette et de sa relation étrange, particulière, avec Mambabi.
Pendant que Mambabi brillait à l'école normale supérieure, Mariette cherchait à se marier. Elle croyait que se marier était dans l'ordre des choses. C'était ce qu'on lui avait appris. Sans doute avait-on souligné que dans la vie, on était la fille de quelqu'un puis la femme de quelqu'un, parce qu'il y avait deux mots pour désigner le garçon et le fils, mais un seul pour la fille. De même que deux mots distinguaient l'homme et le mari, tandis que la femme n'en avait qu'un. On avait dû lui donner ce prétexte lexical et elle avait dû s'en contenter. Erreur que Mambabi n'aurait jamais commise, par exemple. Mariette pensait que l'on pouvait être un garçon indépendamment de sa qualité de fils, indépendamment de ses parents, parce que des millénaires de mythes et de traditions tenaient lieu de parents aux garçons. Elle pensait que l'on pouvait être un homme sans être un mari, que l'homme était libéré de cette nécessité-là aussi. En revanche, la fille, la femme n'était pas dispensée de l'affection d'une mère ou de sa fureur, du châtiment d'un père ou de son pardon, du mariage et de bien d'autres choses qui auraient semblé totalement farfelues à Mambabi. Voilà pourquoi il semblait à Mariette devoir convaincre l'homme qu'elle aurait choisi de l'épouser. Le mariage ne s'imposait pas pour l'homme. Et voilà pourquoi elle utiliserait pour cela la ruse la plus éculée qui soit. « À l'église de mon père, j'ai chanté comme je n'avais jamais chanté », se souvient Mariette. Elle a chanté et... par la magie du chant, elle a retrouvé sa place dans la famille, dans le voisinage, dans la vie de l'église. Elle a été remarquée par cet homme de sa communauté, pasteur évangélique comme son père. Elle est tombée amoureuse, terriblement amoureuse. Elle a séduit cet homme dans les règles de l'art, puis, confortée par son expérience avec Roméo, le premier mari, elle lui a fait la démonstration de la beauté de son corps, du plaisir qu'il pouvait lui procurer. Il ne restait plus qu'à se faire épouser de lui. Là encore, elle a réussi, elle s'est mariée, parce que même la ruse la plus éculée du monde peut fonctionner parfois. Je suis tombée enceinte et, comme prévu, mon amant m'a épousée dans la foulée. Bien sûr, le mariage ne devait pas durer plus de 3 ans malgré les ruses qui, de toute façon, ne suffisent jamais à long terme. Beau, noir, évangélique, pasteur, l'homme que Mariette s'était choisi était bien conforme aux désirs de tous. Et surtout au désir supposé de la mère morte qui, de son paradis, contemplait son petit monde. Tous, la famille, les voisins, ont dit que je faisais ça pour elle. La famille était unie de nouveau. La mère avait, par sa mort, accompli ce que de son vivant elle avait échoué à faire. Déployer ses bras multiples de statues hindoues, retenir les membres de la famille pour qu'ils ne s'éloignent pas trop les uns des autres. De son au-delà, elle devait regarder les siens qui gravitaient les uns autour des autres, comme des corps célestes enfin soumis aux lois universelles. Jésus avait touché de sa grâce Léopold, qui s'était rangé et était devenu le plus chrétien des chrétiens. Et voilà que Mariette emménageait avec son époux à moins de 300 mètres de l'appartement où elle avait grandi. Tous se sont donc réjouis quand Mariette s'est mariée, quelques mois après que Mambabi eut intégré l'école normale supérieure. Tout le monde s'est exclamé que ce mariage était une bonne chose. Que le mari était un cadeau du ciel, un signe que la chance avait fini par frapper à la porte de Mariette, comme Jésus à celle de Léopold. Tous ont repensé au premier mari, cet étranger, cet horrible babacool, et à cette fuite sur les routes dont chacun se souvenait désormais comme d'une fugue et non d'un bannissement. Tous ont estimé que, d'adolescente écervelée, Mariette était enfin devenue une femme avisée, capable d'arriver à ses fins. Elle avait 19 ans. 19 ans. C'est l'âge où les filles comme Mame Babi commencent à échafauder des plans pour conquérir le monde. Seule Mame Babi a vu d'un mauvais œil le mariage de Mariette. Elle est allée jusqu'à tenter de l'empêcher. Elle n'a certes tenu aucun propos désobligeant sur le futur époux. Elle a simplement invité Mariette à venir à Paris avec elle. Elle partagerait la chambre que Mame occupait sur le campus. Le personnel de l'école prendrait Mariette pour une étudiante. On y verrait que du feu. Mariette ferait aussi des études, bien sûr, et toutes deux seraient très heureuses. Elle avait l'air de croire que je pouvais conquérir le monde, moi aussi, fait Mariette avec un petit rire à la fois orgueilleux et amer. Elle ne se rendait pas compte, Mame Babi, malgré toute son intelligence. Surtout, elle semblait avoir oublié l'enfant à venir. Mariette osait à peine lui demander « Mon enfant, on le mettra où dans ton petit studio ?» Elle voyait bien que Mame avait rayé son fils d'un trait. Mariette a répondu qu'elle ne voulait pas faire d'études, qu'elle n'était pas assez intelligente. « Pas aussi intelligente que toi, Mame. Même pas la moitié de ton intelligence. » Elle a osé ça à la basse flatterie, espérant lui faire lâcher prise, mais Mame Babi a réitéré son invitation. Avec ses manières d'araignée, elle essayait de me ramener à elle, de m'engluer avec elle dans cette toile qu'elle tissait à Paris. Mais Mariette lui avait résisté. Elle s'en était vantée juste après son mariage, quand l'illusion d'une vie heureuse tenait encore.
Cet homme, conforme au désir de la communauté, était trop parfait pour n'avoir pas été remarqué par d'autres femmes de la communauté. Avant son mariage, Mariette avait eu des rivales, beaucoup. Elle les avait affrontées une par une et avait vaincu chacune d'elles. La lutte avait été âpre. Et la dernière rivale tellement coriace qu'il avait fallu employer la ruse la plus éculée du monde pour l'éliminer. Après le mariage, les rivales réapparurent peu à peu, telles des insectes, promptes à éclore comme des larves dans un bocal de riz, défilant comme une colonne de fourmis, une d'abord, puis d'autres, puis une quantité impossible à cacher, impossible à contenir. Les rivales étaient plus nombreuses, plus fines qu'autrefois, et sans le moindre respect pour le statut d'épouse. Mariette se remit à ruser, mais elle vit se briser un à un tous ses stratagèmes. Pour finir, la rivale la plus redoutée, précédemment vaincue, mais toujours à l'affût, remporta la partie. Il y avait de quoi rire. Les voisins ont ri. Tout le quartier a ri. On ne rate pas une occasion de rire dans le quartier. Même Mame Babi a dû rire, car Mame avait tout prévu, prédit, prévenu. Mais elle avait gaspillé sa salive. « Tu gaspilles ta salive », lui avait dit Mariette quand elle se croyait en position de force. « Personne n'aime gaspiller sa salive », songe-t-elle encore, près de 30 ans après. Mariette ne voulait pas être injuste avec Mame, une femme de bien, une femme généreuse. Mais à l'époque où le divorce lui est tombé dessus, elle a pensé que Mame se trouvait au milieu des voisins, commentant sa déconvenue. Elle a imaginé que quelqu'un avait rapporté la nouvelle fracassante. Son mari avait fui le domicile conjugal. Et que chacun avait été partagé entre l'air affecté de circonstances et le fou rire. Bien sûr, Mame Babi avait sincèrement plaint son amie. Sa pitié était vaste comme 10 fois le quartier. Mais à cause des rires communicatifs tout autour, un sourire s'était sûrement affiché sur son visage, malgré elle. Je me suis dit, au moins un sourire, forcément. Le sourire de celle qui savait, qui avait tout prévu, tout prévenu, et que l'on n'avait pas écouté. Mariette n'a pas pu s'empêcher de le voir, ce sourire. Et ce sourire les a séparés. Pour connaître l'histoire de Mariette, Mame Babi. Je vous invite à vous procurer la fin de Mame Babi qui vient de sortir aux éditions Gallimard. Et avant de nous quitter, nous allons lire désormais deux poèmes, toujours de Gaëlle, édités chez Les Filles de Balkis. Et le recueil de poèmes s'intitule « A cappella des promises et des oubliés ».
À quai. Il la pose dans le train, peu avant le sifflet, et ils restent plantés, chacun sur une rive, celle qui suivra le fil d'un cours d'eau invisible et celle bétonnée qui ne partira pas. Le même ray de lumière traverse leurs pupilles, enfants de l'aube pêche à la peau duveteuse qui mêla leurs cheveux, leurs cuisses et leurs doigts, dans l'odeur douce amère d'un apprenti sommeil. Puis le train rompt l'hypnose, dans un éternuement qu'un charlatan virtuose nommé sort ou hasard, orchestre méchamment, détournant le regard de l'amant juvénile assigné à demeure. Le maître de Bonneteau a réglé la secousse sur l'envolée criarde de la tunique rousse qu'une donzelle exotique retient, inefficace, contre l'assaut du vent et des yeux impudiques. Dans l'engin de ferraille, insectes éméchés, les phalanges se ruent contre la transparence qui arrête le son, complice de la tempête. Et le garçon s'empêtre dans les replis profonds.
Rosaline. Je te vois, Rosaline, aux premières lueurs, sous le brasier d'un ciel déjà lourd de chaleur. Tes jambes font de l'air, pareilles à deux lames, un grand sac de maïs dans ta poigne de femme, bâtie comme la case d'un maçon habile, la charpente solide sous l'apparence gracile. Tu n'as pas dit un mot à cet homme allongé, terminé sans hâte la nuit partagée, prompte comme un insecte hors du lit avant l'aube, avec pour tout adieu ton empreinte encore chaude. Rosaline vaillante, vacant à ton devoir, tu ne lui as même pas accordé un regard. Sur le chemin pentu, tu ne t'écartes pas des branches qui déchirent ta robe de paysanne. Tu savoures le fardeau qui fait ployer ton bras, martyrise ton corps et allège ton âme. Tu espères que l'effort te rendra amnésique, dissipera la nuit son odeur, sa musique. Et ton pied nu frappé sur la roche fleurie fait offrande à la pierre de ta mélancolie. Mais un cœur singulier brise ton bel élan, des bolides habillés de rubans roses et blancs. Les klaxons clairs entraînent le monde sur leur passage et tu t'approches aussi comme tout le voisinage, déferlant de la route, une vague te submerge, quand scrupuleusement tu scrutes le cortège. Tes yeux jaloux repèrent leur cible ravissante dans le secret d'une carrosserie éblouissante. Ils soulèvent le voile et la soie du corsage pour deviner le ventre, les seins et le visage. C'est une fille des mornes, cette vierge pudique, et son corps est ton corps, sa figure identique. Ta peine devient une plume dans l'encre ténébreuse, ton destin tracé aux lignes hasardeuses. Il te manque l'armure dont certaines se parent, la science des murmures qui déjà la compare à la brebis hier, la plus fière de l'étable et célébrée demain au festin d'une table. Je te vois, Rosaline, ivre de ton chagrin. Tu dévales la pente, laisse échapper le grain. Tu cours vers le parfum qu'il fallait oublier. Le lit est une terre aride, dévastée. Tes mains fouillent un creux où tu couches une prière avant d'ensevelir tes noces éphémères. Et voilà, merci beaucoup Gaëlle.
Merci.
On termine cette émission Histoire 2 sur FPP, fréquence Paris Pluriel 106.3. Nous l'avons consacrée à la lecture des extraits de La fin de Mambabi, qui vient de sortir aux éditions Gallimard. Et je vous invite à aller vous le procurer vite fait. Nous avons entendu la chanson « Jouer » de notre copine Véronique Hermann-Sambin. Merci à tous, au mois prochain. Bye bye.